Mais salut Daniel, salut à tous. Hervé de Brest, Hervé Landriot, L-A-N-D-R-I-A-U. Cette idée de bistrot, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Mais je vais essayer de me démerder pour vous trouver une adresse sur Brest. Je voudrais bien savoir combien on est ici dans le coin. Mais est-ce que vous avez vraiment réfléchi à tout, là, aux conséquences de ce bazar? Parce que après, quand ça sera en route, on va pouvoir se compter. T'imagines la gueule d'une pétition lancée contre... Hein? Bon, enfin bref. Et puis les RG vont s'intéresser vivement à ces adresses. Bon, faut réfléchir à tout ça, hein. Normalement, les sarkozistes vont pas aimer, quoi. Par contre, moi, je vous aime. Allez, continuez, je change rien. Je suis content que t'aies récupéré ton vendredi. Ça me faisait déjà chier que t'aies perdu 5 minutes par jour. Allez, salut.
Bonjour, c'est Jérôme de Nancy. Je suis étudiant et je voudrais vraiment encourager chaudement les gens de ma ville à inaugurer un repère. Voilà. Ben, bon courage, Daniel, et à bientôt.
Bien, votre idée de bar sympa pour discussion autour de l'émission là-bas, si j'y suis. Mais vous nous voyez arriver, nous, les petites mémées, avec nos sacs tout cuir, nos lunettes de presbyte, nos vestes fourrures et nos douleurs, arrivant là-dedans entre José Bouvetis, écolo de tout poil, étudiant branché, genre bière light et joint circulant. Rien que de voir leur tête, quand j'arriverai, je rigole. Bon, enfin, j'arrête là, mais c'est pas mal comme idée. D'autre part, c'est bien que votre émission est reprise, j'en suis tout à fait ravie, et il n'est pas question qu'on nous enlève le vendredi, sinon on arrive même de la province. Hein. Alors moi, je voudrais dire bon courage à la collègue infirmière de Royan, et je voudrais la soutenir, mais je lui dis attention à la fatigue, la déprime. Les collègues auront vite fait, dès qu'il fera froid, de rejoindre la tranquille sécurité de leur service. Et ma belle, tu vas porter le chapeau et tu laisseras des plumes psychiques, physiques et morales. Mais en tout cas, pour avoir connu toutes ces bagarres au long de ma carrière, c'est bien. Tu vas pouvoir te regarder dans la glace encore pendant longtemps. Allez, ciao à toute l'émission et puis bon courage pour la rentrée. Au revoir.
Et voilà, ça va marcher. Ça marche, le repère, l'idée des repères des amis de là-bas, si j'y suis. C'est notre idée pour la rentrée. Vous écoutez là-bas si j'y suis, vous écoutez France Inter, mais spécialement là-bas si j'y suis. Mais d'autres écoutent aussi dans votre village, dans votre quartier, dans votre ville. Alors pourquoi ne pas se rencontrer pour discuter, échanger, boire un coup et évidemment changer le monde. Mais où se retrouver et quand? Eh ben, c'est vous qui vous débrouillez, c'est vous qui décidez, qui choisissez un bistrot sympa dans le coin, que vous connaissez, vous discutez avec le patron, vous vous mettez d'accord et vous convenez d'un jour et d'une heure où chaque semaine, c'est pas un jour seulement, mais chaque semaine, régulièrement, vous vous retrouverez comme ça, sans chichi, sans programme établi, autour d'un verre, pas seulement pour parler de la basse suite, pour parler de tout ce que vous voulez, de la pluie, du beau temps, de ce qui se passe dans votre coin, dans votre quartier. Voilà, c'est simplement une idée comme celle-là. Alors, il vous reste à trouver l'endroit où, et l'heure et l'endroit. Et vous nous le dites sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Et nous, on fait rien là-dedans. Hein, nous, on n'a rien à faire. C'est pas une association. Ça n'a rien de formel. C'est juste histoire, évidemment, de préparer le grand soir et de faire la révolution. Bien évidemment, c'est ça le but de l'opération. L'auditeur du début, là, de Brest, a très bien compris le but. Voilà. Donc, le répondeur, c'est le 01 56 40 37. 37. Aujourd'hui, comme chaque mois, chaque premier lundi du mois depuis je ne sais plus combien d'années, j'ose plus les compter, on se retrouve avec l'équipe du mensuel Le Monde Diplomatique. C'est Guy Ventil aujourd'hui qui mène les débats avec la fine équipe du Monde Diplomatique. Mais auparavant, des messages, d'autres messages sur le répondeur 01 56 40 37 37.
Oui, je suis Bernard Tomaso de Rennes. Je viens de prendre à 17h, je pensais depuis quelques mois, je ne prenais plus l'émission de là-bas si j'y suis, je pensais qu'elle avait été supprimée. D'abord, je m'y étais complètement désintéressé et j'avais une très bonne émission. Cet été, c'est le parking avant la plage et puis on l'a supprimée pour que Mermet reprenne son émission qui est une émission défaitiste où on nous parle souvent de torture, de choses désagréables, une émission qui rend mal à l'aise. C'est dommage que la grille de France Inter n'a pas obliqué d'une autre façon, d'une façon plus saine. Voilà, je vous dis mon vous serez au moins deux, on sera au moins deux à être déçus. Voilà, au revoir.
Bonjour, c'est François de Haute-Garonne. Ben, déjà, j'avais trouvé étrange qu'au mois de juin, lors d'un 7-9 qui était diffusé à partir de Limoges, c'est intéressant hein, de se déplacer en province, comme disaient les Parisiens, d'inviter des gens qui constituent la société locale. Donc j'avais trouvé étrange que à ce moment-là se trouve autour de Paoli un étudiant, bien, paysan, deux je crois, bien, major agricole, hein, Limousin, et puis deux patrons. Non, pas un, mais deux patrons. Un patron d'une PME, et puis le patron de le grand entreprise électrique. Mais d'ouvrier, que nenni. Bon. Et puis là, j'apprends aujourd'hui, ou hier, j'ai plus l'engrillé de rentrer, que tous les matins, lors du 7-9, un patron aura ses deux minutes, sa chronique. Hein. Tous les jours, vous entendrez un patron. Alors, on connaît le credo hein, des patrons, trop d'impôts, trop de lois. Voilà, tous les matins, on va entendre qu'il y a trop d'impôts et puis qu'il y a trop de lois. Voilà. Ben ça devient Radio Medef, quoi. Hein. C'est bien. Allez, salut tout le monde.
Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, en début d'émission, vous avez annoncé l'éviction de Brigitte Patient sur France Inter. Alors je suis stupéfait par cette nouvelle. Je croyais la retrouver dimanche matin pour, je crois, une troisième année de Au fil d'Inter, une émission consacrée aux coulisses d'émissions de la chaîne, à la fabrication d'un magazine, d'un journal, et faire meilleure connaissance d'un Daniel Mermet, Jean-Louis Foulquier, Isabelle Dordain ou Nicolas Stoufflet. Et en plus d'un fil d'Inter, elle avait une séquence le samedi matin qui s'appelait Strapontin, consacrée aux petites troupes de théâtre pour enfants par exemple. Il ne faut pas oublier qu'elle a été le réveil matin d'Inter dans les années 95-98 et beaucoup plus tôt que ça. Je l'ai découvert animant une émission en milieu d'après-midi. Cela correspond au moins à 10 ans de micro sur Inter. Et si, en leur temps, M. Pierre Bouteiller et Jean Lucas lui ont confié du temps d'antenne, c'est que c'est un signe de qualité. Alors si cette petite goutte d'eau que je suis contribue à la faire rester, je serai encore plus fier de faire partie des auditeurs de France Inter. Salutations, c'était Jean-François de Saint-Étienne-du-Rouvray dans la Seine-Maritime. Au revoir.
Bonjour Daniel, ici René Joseph. Votre émission recommence, par une demi-heure de louange au grand timonier quasi nord-coréen. Des louanges, par le timonier. Le timonier est modeste et génial, toujours, voilà, et c'est toujours les mêmes... Il donne des leçons de ce qui est bien, de ce qui est mal. Les OGM, c'est pas bien. Voilà, c'est toujours comme ça, c'est un peu toujours pareil. Et puis, il y a les choix sélectifs sur l'été, sur les Jeux Olympiques, sur les incendies des gens dans les immeubles. Et Gaza restitué à la paix, dans le calme, avec l'armée israélienne qui a une volonté affirmée de rendre ces territoires aux Palestiniens. Eh bien, nul mot. C'est toujours à géométrie variable sur le service public. Et c'est vrai qu'on a envie de le fuir de 5 à 6. Merci.
Ouais, bonsoir. Je viens d'entendre un journaliste s'émouvoir sur France Info. Bon, France Info, si vous me direz, c'est bien fait pour moi, hein, la voix de son maître. Enfin bref, s'émouvoir du fait que... L'entreprise Gazprom en Russie rachète petit à petit tous les journaux, tous les médias un peu contestataires. C'est vrai que en France, nous, avec 80% de la presse qui appartient à des marchands de canons, à savoir Dassault ou Matra Lagardère rachète, un Chiracien à la tête de France Télévisions, un autre Chiracien à la tête de Radio France, TF1 qui appartient à un marchand de béton et M6 à un marchand de flotte, on a vraiment des leçons à donner en termes de médias contestataires, hein, c'est certain. Voilà, et bonne soirée quand même, c'était Frédéric de Bordeaux.
Bonjour l'équipe, Antoine, à côté de Nîmes. Alors pour les repères, je proposais la guinguette des airs de Brome à Dience, non-fumeur. Le propriétaire, super gentil, super sympa, jeune, voilà. à propos de l'émission, eh ben, 17 ans, eh ben, oui, Sting, ça s'appelait, ça voulait dire l'aiguillon, le dard. Vous êtes quoi, vous, alors? Le picadou, le picablou, le diable qui pique. Bonne équipe, bon sujet, les bruitages sublimes. Aujourd'hui, on s'est régalé avec tous les messages. Bon, moi, j'ai l'âge d'avoir connu les clignotants de 404. Maintenant, ça s'appelle feu de détresse, ça fait le même bruit. Bon ben, bonne année, à bientôt, les fidèles, quoi. Salut.
Même le silence, c'est là-bas, si j'y suis, jusqu'à 18h avec l'équipe du Monde Diplomatique.
I hate the way they portray us in the media. We see a black family, it says they're looting. We see a white family, it says they're looking for food. Then permission to go down and shoot us. George Bush doesn't care about black people.
Flight number 2, arriving from...
Voilà, on reprend les bonnes habitudes avec l'équipe du Monde Diplomatique pour ce numéro de septembre 2005, avec un édito qui n'est pas un édito d'Ignacio Ramonet, mais de vous, Alain Grech, qui s'intitule « Insoumission », s'agissant des États-Unis et de l'unilatéralisme, et qui mériterait presque d'être mis à jour depuis l'ouragan Katrina, qui a fait apparaître à quel point les États-Unis dépendaient maintenant, c'était officiel, de l'aide extérieure, y compris de celle des Nations Unies, puisqu'il y a un grand dossier sur les Nations Unies dans ce numéro du Monde Diplomatique pour venir en aide aux sinistrés.
Oui, l'idée de cet éditorial, c'était de montrer que sous les dehors d'un monde dominé par une seule grande puissance, que sont les États-Unis, avec sa supériorité, notamment militaire, il y avait en fait des formes de résistance très nombreuses qui s'organisaient à tous les niveaux, aussi bien d'ailleurs au niveau populaire qu'au niveau des États. C'est-à-dire qu'il y a un rejet par beaucoup de pays, y compris de ceux qui collaborent avec les États-Unis, d'un monde fondé sur l'unilatéralisme, et il y a une volonté de s'organiser, des fois contre les États-Unis, mais des fois simplement à côté des États-Unis, en sortant des règles que les États-Unis cherchent à imposer. Alors on le sait évidemment pour l'Irak, où il y a eu à la fois au niveau des manifestations, au niveau des États, un refus important, mais il y a des événements aussi divers, je dirais, que le fait par exemple que la Corée du Sud accepte le programme nucléaire civil de la Corée du Nord contre l'avis des États-Unis. Le fait qu'un certain nombre de pays du Sud s'organisent pour essayer de présenter un front uni face aux propositions américaines à l'Organisation mondiale du commerce, etc., etc. Et que ça, souvent, on ne voit pas, parce que c'est, effectivement, ça ne fait pas la une de l'actualité, mais en même temps, il me semble que c'est un courant important de la politique internationale. Ça ne veut pas dire que les États-Unis sont menacés, qu'il y a une grande puissance qui les menace à court terme, même si les États-Unis sont inquiets de la montée de la Chine, mais ça veut dire que le monde n'est pas aussi simple que les États-Unis et leurs dirigeants souhaiteraient le voir. Et puis c'est vrai que je soulignais avant donc les événements du cyclone Katrina, c'est le fait qu'il y a un très grand décalage entre le poids militaire, économique et politique des États-Unis et leur image dans le monde. Et c'est vrai que cette image n'arrête pas de se dégrader, et je crois que c'est un élément important. Il y avait un sondage publié par le Herald Tribune sur la manière dont les différentes opinions publiques voient les États-Unis, et le texte était titré « Même la Chine fait mieux ». C'est-à-dire même l'image de la Chine dans un certain nombre de pays est beaucoup plus positive que celle des États-Unis. Et ça, c'est un problème, parce que je veux dire, la domination d'une puissance mondiale, elle se fait militairement, bien sûr, elle se fait économiquement, elle se fait politiquement, mais elle se fait aussi à travers son idéologie et à travers l'attrait qu'elle peut représenter pour un certain nombre de pays et de peuples. Et là, on voit bien que cet attrait n'est pas énorme. Et c'est vrai qu'avec l'affaire du cyclone et l'incapacité totale de l'État de répondre aux besoins de la population à la suite de ce cyclone, je crois, porte un coup important à l'image des États-Unis qui ont été obligés d'accepter, comme vous l'avez rappelé, non seulement l'aide des Nations Unies, mais l'aide de l'Europe aussi, un peu comme si c'était un pays du tiers-monde. Et ils ont eu aussi une proposition d'aide de Cuba et de Venezuela. Je ne sais pas s'ils vont l'accepter.
Il y a aussi cette question, à cette occasion, Serge Halimi, je vous demande, il y avait cette question qui parcourt pas mal d'éditorialistes américains, c'est pourquoi on nous déteste ? Pourquoi on ne nous aime pas ?
Ça, c'est une question qui se posait au moment du 11 septembre. Là, maintenant, la question qu'on se pose davantage, en tout cas à l'extérieur des États-Unis, c'est comment se fait-il que ce pays si riche traite aussi mal ses pauvres ? Je veux dire, c'est une question récurrente. Il faut savoir que ce genre d'événement qui montre la misère des services sociaux dès lors qu'il s'agit des pauvres, c'est déjà reproduit un certain nombre de fois. Souvenez-vous des émeutes de Los Angeles ? Et on avait découvert qu'à Los Angeles, il y avait des pillages, il y avait des conditions d'existence absolument épouvantables. 2 mois plus tard, plus personne n'en parlait. Le débat politique américain reprenait son cours habituel. Pour une raison qui est assez simple, c'est que d'une part, lorsqu'il s'agit du président Bush, les Noirs ne sont pas des électeurs républicains. 90% des Noirs votent démocrates. Ça n'empêche pas que dans les États dont on parle le plus, la Louisiane, le Mississippi et le Texas, Bush l'a emporté très largement avec 57% des voix en Louisiane, 59% au Mississippi, 61% au Texas. Pourquoi ? Parce que 80% des Blancs votent républicains. En d'autres termes, ce qui vient de se produire ne préoccupe pas directement les électeurs de George Bush, ne préoccupe pas directement les électeurs du parti républicain qui contrôle à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc les pauvres ne sont pas prioritaires et on sait que les États-Unis peuvent parfaitement aéroporter près de 200 000 hommes en Irak avec les chars, avec tout le matériel nécessaire. Mais qu'en même temps, lorsqu'il s'agit d'un ouragan, que fait le gouvernement américain ? Il dit l'ouragan arrive, débrouillez-vous. Puis après, on découvre quoi ? Que ce sont les mêmes qui sont restés naturellement, ceux qui n'avaient nulle part où aller et pas de moyens pour s'y rendre. Et on découvre que effectivement, dans les villes pauvres, des États pauvres, parce que le Mississippi, la Louisiane sont des États particulièrement pauvres, mais il y a des gens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas l'envie d'aller ailleurs. C'est la fin du mois, ils n'ont plus un centime, ils n'ont pas de carte de crédit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ben ça, le gouvernement ne s'en est pas préoccupé. Il aurait suffi effectivement de mobiliser des cars scolaires, de mobiliser des transports militaires. Après tout, on le savait depuis 2 jours. Et de dire aux gens qui souhaitaient partir, voilà, vous avez les moyens de le faire. Mais ça, on ne le fait pas. Alors, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on dit sur la situation en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans en particulier, il faut bien voir que ce qui se passe aux États-Unis depuis des années, on l'a beaucoup dit ici, mais on le répète et apparemment ça ne marque pas les consciences puisqu'on fait toujours les mêmes découvertes lorsqu'il y a un cyclone, un tremblement de terre ou ce genre de choses, c'est qu'il y a toujours plus de pauvres aux États-Unis. Une semaine d'ailleurs avant que n'intervienne cette catastrophe naturelle, les statistiques officielles annonçaient qu'il y avait 37 millions d'Américains qui vivaient dans la pauvreté, 1 million de plus que l'année précédente, que c'est le nombre le plus élevé depuis qu'on conserve les statistiques. On apprenait aussi au même moment qu'il y avait un nombre record d'Américains sans couverture médicale, que seuls 60% des salariés sont couverts par leur patron et qu'après il faut qu'ils se débrouillent. Et souvent, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et on apprenait, alors là, c'était encore plus frappant, qu'alors même que les États-Unis avaient connu une très forte période de croissance, le revenu de la majorité des Américains avait décliné pour la 4e année consécutive.
C'est-à-dire un accroissement des inégalités.
Pas seulement un accroissement des inégalités, c'est que pour la majorité des Américains, alors même que la croissance est ce qu'elle est et qu'on ne cesse de la célébrer en France et de nous dire que nous, on tombe parce qu'on n'a pas les taux de croissance des Américains, cette croissance a bénéficié de manière disproportionnée aux 5% d'Américains les plus riches. Pour 95% des Américains, cette croissance, ils n'en ont pas vu la couleur. Leur revenu a stagné ou leur revenu a baissé. Et au même moment, quelles sont les priorités de George Bush ? Quelles sont les priorités de l'administration républicaine ? Eh bien, d'une part, réduire l'impôt sur les successions. Le lendemain de la catastrophe en Louisiane, je recevais une lettre du Parti républicain, parce que je reçois les courriers des partis républicains, des partis démocrates, pour savoir ce qu'ils disent à leurs militants, qui me disait qu'il fallait me mobiliser pour permettre à Bush de réduire l'impôt sur les successions. C'était la grande priorité, effectivement, du jour. Autre priorité, réduire l'impôt sur les sociétés. Troisième priorité, ne pas augmenter le salaire minimum, qui n'a pas bougé une seule fois depuis 1997. Ça fait donc près de 8 ans. Et enfin, dernière priorité, réduire de manière très sévère les programmes destinés aux pauvres, dont le programme d'assurance médicale. Donc il y a en quelque sorte cette découverte, cette indignation, etc., mais qui est le produit d'une politique de négligence à l'égard des pauvres qui date d'au moins 25 ans.
Dominique Vidal.
Oui, je voudrais ajouter un mot pour dire que toute proportion gardée, ça ne peut pas se comparer à la catastrophe qui a déferlé sur la Louisiane, vers la Nouvelle-Orléans, etc. Mais au même moment, ou à peu près, nous avons, nous aussi en France, découvert nos pauvres. Parce qu'ils ont brûlé. Et je dois dire que il y a eu quand même quelque chose de profondément choquant, quoi. On entend le gouvernement dire c'est la mairie dire c'est la préfecture dire c'est Emmaüs, Emmaüs dire on n'y peut rien.
Mais enfin, le ministre de l'Intérieur dire c'est les squatters.
C'est les squatters, il faut les virer. D'ailleurs, il faut lui reconnaître, le ministre de l'Intérieur, le fait qu'il est le seul à être venu. Le seul ministre. Mais pour dire, il faut les virer.
Le ministre de l'Intérieur, qui est l'ancien maire de Neuilly, où il n'y a que 3% de logements sociaux, et qui a déterminé que la grande priorité pour l'action gouvernementale, c'était de réduire l'impôt sur les grandes fortunes.
Donc, ça me rappelle quelque chose.
Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a là quelque chose de profondément choquant, mais qui montre bien comment la société française, elle aussi, comme la société américaine, est capable de vivre dans l'aveuglement le plus total sur la réalité de cette pauvreté, ou d'une pauvreté plus large, mais d'autant plus qu'il s'agit de Français d'origine étrangère ou de sans-papiers. Alors là, l'aveuglement est encore plus grand. Et tout d'un coup, on découvre, alors se découvrent aussi des bonnes volontés, des gens ont manifesté, d'autres sont venus. Moi, j'en ai vu apporter des paquets, des vêtements, des jouets. Tout ça est formidable, mais il y a une responsabilité de la société, des autorités, des partis politiques, de tous ceux qui acceptent que cette situation perdure avec les conséquences que l'on voit. C'est pas la Louisiane, mais enfin, à notre échelle, c'est important.
En 1960, il y avait un sociologue américain, Michael Harrington, qui avait écrit un livre qui s'appelait « L'autre Amérique » et qui estimait que la caractéristique principale de la société américaine, c'est que les pauvres étaient invisibles. Ils existent, mais on ne les voit pas, on ne les voit jamais. Et effectivement, il faut toujours une catastrophe de ce type pour qu'on les redécouvre. Mais à la suite du livre de Michael Harrington, il y avait eu toute une série de programmes sociaux, la lutte contre la pauvreté qui avait été engagée par le gouvernement fédéral, qui avait consacré des moyens très importants à ces programmes sociaux, qui ont presque tous été démantelés à partir des années 80, au nom de cette idée que les programmes faisaient davantage de mal à ceux qui en étaient les allocataires, qu'ils ne leur faisaient de bien, et qu'il était préférable qu'ils se prennent en quelque sorte par la main pour résoudre leurs propres problèmes. Et c'est donc la suite de ces orientations de politique publique qu'on a évidemment vu aux États-Unis, mais qu'on a retrouvé dans la plupart des pays occidentaux, qui font que maintenant, quand ce genre de catastrophes se produisent, on pense qu'il faut que les gens se débrouillent, ou bien dans le cas du président Bush, que les charités religieuses s'en occupent. C'est la grande idée qu'il a eue, d'abord de proclamer 2 jours de deuil, mais surtout parce que le président de la Cour suprême vient de mourir, et puis ensuite d'inciter les Américains à faire preuve de compassion. Privée, naturellement. The revolution will not be televised. The revolution will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. Will not be televised.
Une conférence des Nations Unies au cœur de la France s'étant réunie. Après les harangues pour se délasser, chacun dans sa langue se mit à chanter. Sambi, sambo, sambu, samba, brava la sambi, bravi bravo, bravi sambo, brava la sambi, bravi brava, bravo samba.
Délégué espagnol.
Habe, sabe, sami, sami, mumi, mucho, no, no, no.
Arabe.
Mouche, pese, puis, dem, chier, je te mets, yeah, le, le, le.
Oui.
Troïka, katous, kofnit, chevou, mon mosquée, niet, niet, niet. Et tout le monde reprit ce refrain-là. Brava la sambi, bravi bravo, bravi sambo. Brava la sambi, bravi brava, bravo samba.
Alors le principal dossier dans ce numéro du Monde diplomatique concerne les Nations Unies. On n'est jamais très loin de ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire le rôle des États-Unis qui est un des principaux débiteurs des Nations Unies. Anne-Cécile Robert.
Oui, les Nations Unies qui fêtent cette année leurs 60 ans font l'objet d'attaques très violentes, notamment de la part des États-Unis, et il est tout à fait important de faire le point sur ce qu'il en est vraiment de leur fonctionnement et de leur bilan. Et c'est pour ça qu'on leur consacre un dossier conséquent avec de l'infographie, des articles rédigés par des gens de différentes nationalités pour avoir un point de vue pas seulement franco-français sur la question et voir en fait que les Nations Unies n'ont pas un bilan si négatif que ça. C'est-à-dire que dans la critique qui vient notamment des États-Unis, il y a une intention qui est de déstabiliser le seul organisme dans lequel les États-Unis, les grandes puissances, y compris la France d'ailleurs, sont obligées de rendre des comptes et de discuter. Alors il ne s'agit pas non plus de...
Je coupe deux secondes parce que les critiques pour les Nations Unies, c'est pas avoir empêché le génocide au Rwanda, ne pas avoir bougé pour le massacre de Srebrenica dont on a commémoré les 10 ans cet été, c'est la paralysie de l'appareil, c'est la corruption dans le cadre du programme pétrole contre nourriture, c'est des histoires de viols faites par des casques bleus en Afrique centrale.
Toutes ces critiques, malheureusement, sont justifiées. Il est évident que dans un certain nombre de cas, y compris les plus dramatiques, les Nations Unies se sont montrées incapables d'empêcher la guerre et des massacres. Mais ce dont on se rend compte, c'est que souvent, derrière cette incapacité des Nations Unies, il y a une mauvaise volonté des États membres, qui refusent de payer leur contribution au budget de l'ONU, qui refusent d'envoyer des casques bleus. Et on voit d'ailleurs, notamment en Afrique, que ce sont les Africains eux-mêmes qui contribuent aux missions de maintien de la paix, avec souvent très peu de moyens. Et donc il y a une espèce d'hypocrisie dans le discours sur l'ONU qui tend à imputer à l'organisation des choses qui tiennent au fait que les États membres sont de plus en plus de mauvaise volonté, refusent de s'embarquer dans certaines régions quand il n'y a pas d'intérêt géostratégique. Le Rwanda, tout le monde s'en fichait, tout le monde a traîné des pieds, hein, la France en premier lieu, mais les États-Unis aussi. L'une des choses qu'on dit trop peu, c'est que l'une des causes de l'incapacité, d'inefficacité des Nations Unies au Rwanda, c'est que le mandat de la mission de maintien de la paix était trop réduit, en particulier à la demande des États-Unis, qui ne souhaitaient pas qu'il y ait des casques bleus pris entre deux feux. Donc les critiques, il faut bien sûr les faire, les Nations Unies doivent se réformer, mais on ne doit pas sombrer dans un discours qui tendrait à dire « bon ben finalement, supprimons l'ONU », plusieurs livres qui sont parus à ce sujet, « faut-il brûler l'ONU, supprimer l'ONU, etc. » Ça ne ferait que faire le jeu des grandes puissances, les États-Unis en particulier, mais aussi de la France en Afrique, de tous les pays qui finalement peuvent compter sur leur propre puissance pour défendre leurs intérêts. Et d'ailleurs, on a un papier d'un juriste du Paraguay sur le rôle que les Nations Unies ont joué dans la promotion des pays du tiers-monde et dans la défense de la cause des pays du Sud. Depuis l'origine, les Nations Unies ont été une tribune qui a permis aux pays du Sud d'affirmer leurs revendications par rapport à la décolonisation, mais aussi plus tard, dans les années 70 et même 80, la question du développement, de poser la question du développement et de revendiquer une autre vision des rapports mondiaux. La difficulté devant laquelle on se trouve, c'est que aujourd'hui, non seulement l'ONU fait l'objet d'une sorte de désaffection de la part des puissants, mais vous avez un nouveau phénomène extrêmement dangereux, qui est que les grandes entreprises, les grandes firmes, ont parfaitement compris le parti qu'elles pouvaient tirer de cet affaissement politique de l'idéal des Nations Unies. Et on voit par exemple des partenariats qui sont développés entre l'ONU et ses différentes agences et des entreprises. Alors au nom du développement, mais en fait tout ça c'est du big business, c'est-à-dire que en fait l'ONU sert de clé pour ouvrir les économies de certains pays jugés trop fermés, pas assez libérales, pas assez mondialisées. Et ça, malheureusement, c'est un phénomène qui se développe, en particulier sous l'impulsion du secrétaire général Kofi Annan. Il est à l'origine, notamment, du partenariat qu'on appelle Global Compact, qui associe les grandes firmes multinationales à tout un tas de programmes des Nations Unies dans le monde.
Mais le mot d'ordre, c'est la croissance économique bénéficie à tout le monde et apportera donc plus de stabilité et plus de démocratie.
Mais c'est de l'idéologie pure, ça. Quand il y avait une gauche dans le temps, souvenons-nous, il y a très longtemps, il y avait cette opposition classique entre la droite et la gauche. La droite disait, il n'y a pas de gâteau à partager, il faut faire grossir le gâteau, les miettes finiront bien par retomber sur tout le monde. La gauche disait, mais pas du tout, ça se fait pas automatiquement, il faut partager le gâteau. Aujourd'hui, c'est la victoire totale du discours libéral. On est tous dans l'idée qu'il faut faire grossir le gâteau. Et puis, bonne chance les pauvres, hein, que le meilleur gagne. Et malheureusement, tout fonctionne comme ça, y compris les Nations Unies.
Alors même que les statistiques, encore une fois, prouvent le contraire, puisqu'elles viennent d'être rendues publiques aux États-Unis. Le revenu de la majorité des Américains est inférieur. La majorité est inférieure à ce qu'il était il y a 4 ans. Et les seuls qui ont profité des années de croissance sont les 5% d'Américains les plus riches. Donc c'est pas, il s'agit pas d'idéologie ou de « que pensez-vous, qu'imaginez-vous » élaborer des scénarios. Ces politiques ont été testées par les départements de la statistique américains qui vient de donner les résultats.
Donc les miettes n'arrivent pas jusqu'aux nécessiteux.
Malheureusement non, c'est triste à dire, mais ça ne fonctionne jamais comme ça. Et on sait très bien que quand il n'y a pas de mécanisme volontariste, les inégalités se perpétuent et se développent. C'est l'un des drames de l'Afrique, c'est qu'on veut la faire, entre guillemets, se développer en lui supprimant ses États, les puissances publiques, tous les organismes de régulation, et on ne compte que sur le jeu du marché et des entreprises. Alors déjà que ça marche pas dans les pays riches et industrialisés, en Afrique c'est une vraie catastrophe, parce qu'il est bien évident que les entreprises vont aller se placer dans les endroits où c'est rentable, ils vont pas aller spontanément dans des régions reculer où il y a des pauvres qui meurent de faim, c'est évident. Mais on continue, et malheureusement avec l'appui des Nations Unies...
Conditionner l'aide au développement à l'ouverture des marchés, à la privatisation des entreprises publiques.
À chaque fois qu'il y a une aide, entre guillemets, proposée à l'Afrique, c'est à condition de privatiser, de libéraliser. C'était le cas au dernier G8, là, à Gleneagles. On nous a annoncé à grand renfort de publicité des réductions de dette, une augmentation de l'aide au développement. Alors déjà, la réduction de la dette est très, très partielle. Mais l'aide au développement, et même les réductions de dette qui sont proposées, sont conditionnées à de nouvelles privatisations, ce qu'ils appellent l'insertion sur les marchés mondiaux. La nécessité pour les économies africaines de s'ouvrir à la compétition mondiale, avec ce discours absurde qu'on demande aux pays les plus pauvres du monde d'entrer en compétition avec le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, c'est complètement absurde, mais on continue avec tous les ravages que l'on sait, puisque l'Afrique est le seul continent dont les indicateurs sociaux, culturels et d'éducation sont en permanente régression depuis une vingtaine d'années, depuis qu'elle est sous ajustement structurel, c'est-à-dire sous les politiques libérales.
Serge Alimi.
Dans le cas des États-Unis, il faut rappeler que l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, John Bolton, est tellement hostile au système même des Nations Unies que George Bush n'a pas réussi à obtenir que le Sénat, où les Républicains sont pourtant majoritaires, ratifie sa désignation et qu'il l'a donc imposée par décret. Ce qui montre qu'elle est, en quelque sorte...
C'est un fervent opposé au droit international.
Oui, c'est quelqu'un qui est tout à fait opposé au système des Nations Unies. C'est un peu normal. Dès lors que vous pensez que les riches doivent avoir le pouvoir, pourquoi contrôler le pouvoir des nations riches en l'encerclant par le vote des nations pauvres? Il est normal que les États-Unis aient une responsabilité particulière dans l'ordre international. Et l'idée que cette responsabilité pourrait être endiguée ou contrôlée si peu que ce soit par le système des Nations Unies, et pour la plupart des républicains, une hérésie depuis 25 ans. Il y avait même le slogan qui était « Les États-Unis hors des Nations Unies, les Nations Unies hors des États-Unis ».
Anne-Cécile Robert.
Oui, nous publions une enquête dans ce dossier ONU d'une journaliste américaine qui est allée à l'intérieur du siège des Nations Unies rencontrer des gens qui travaillent pour les Nations Unies. Ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'on voit qu'au milieu des difficultés, du manque de moyens, il y a quand même des gens qui travaillent, qui sont de bonne volonté, qui subissent des pressions politiques. Et au travers de cette enquête, on voit les réformes qui serait de la simple administration et qui pourrait être mise en œuvre pour améliorer le fonctionnement concret des Nations Unies. Et on a demandé à Monique Chemillier-Gendreau de faire des propositions plus larges, plus politiques et juridiques sur la manière de réformer les Nations Unies. Et elle part d'une idée assez simple, finalement, qui veut dire qu'il faudrait recentrer les Nations Unies sur la défense des droits des peuples. Ce qui est tout à fait étonnant et qui transparaît au travers de l'enquête et des différents articles du dossier, c'est que la Charte des Nations Unies qui a été rédigée en 1945 paraît complètement révolutionnaire par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire, elle commence par ce préambule extravagant. Nous, les peuples des Nations Unies, donnons mandat à nos gouvernements. Un truc incroyable, les peuples donnent mandat à leur gouvernement. Il y a une affirmation de la souveraineté des peuples qu'on n'oserait plus faire aujourd'hui sans se faire taxer de crypto-gauchistes ou de dangereux révolutionnaires. Et finalement, Monique Chemillé-Gendreau dit on devrait repartir de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire cet esprit du droit des peuples, de la primauté du droit aussi, quand on voit ce qui se passe avec la guerre en Irak et comment le droit international a été malmené, repartir de là pour refonder avec un nouveau projet, les Nations Unies, ce qu'elle a appelé, elle, une organisation de la communauté mondiale, un joli mot, communauté mondiale, sur cette base-là du droit des peuples.
6 mois s'écoulèrent dans le monde entier, on crut que la guerre allait éclater. À la conférence, un des délégués cria espérance, messieurs écoutez, Sambi, Sambo, Sambu, Samba, brava la Sambi, bravi bravo, bravi Sambo, brava la Sambi, bravi brava, bravo Samba.
Les Italiens.
Un poco non posso, ma perché capisco? Si, si, si!
O Sudan!
Aune, umene, nema, une, ume, ue, ue, ue! C'est ainsi que la guerre fut évitée. Brava la Sambi! Bravi, bravo, bravi, sambo! Brava la Sambi! Bravi, brava, bravo, samba!
Bravo! Dans ce numéro du septembre 2005 du Monde Diplomatique, deux élections qui sont annoncées, celle en Égypte et celle en Allemagne. En Égypte, on va commencer parce que c'est la première, c'est celle qui commence demain, mercredi 7. En particulier, ces deux pages qui sont principalement consacrées à la société égyptienne s'intéressent aux frères musulmans. Quelques mots déjà pour rappeler aux auditeurs ce dont il s'agit. Avec vous, Alain Grèche.
L'organisation des frères musulmans a été créée en 1928 en Égypte par un homme qui s'appelait Hassan el-Banna, qui était un instituteur. Elle a été pendant très longtemps la grande organisation politico-sociale. Elle ne s'est jamais définie comme un parti en Égypte, jusque l'arrivée au pouvoir de Nasser qui l'a écrasée. Elle a essaimé dans beaucoup de pays arabes et de pays non arabes, et donc elle apparaît comme ça, comme une organisation tentaculaire en Égypte. Donc l'article revient sur un peu l'histoire de cette organisation plus récemment, c'est-à-dire qu'au moment où Nasser meurt et au moment où le président Sadat prend le pouvoir, pour lutter contre la gauche et les marxistes, il libère les dirigeants des frères musulmans. Et il leur permet alors une situation assez curieuse, mais qui va se révéler être un avantage pour les frères musulmans, c'est-à-dire une organisation qui n'est pas reconnue officiellement, mais qui est tolérée. Donc de temps en temps, on arrête ses dirigeants, de temps en temps. Mais en même temps, du fait qu'il n'est pas reconnu comme parti, il n'a pas à se soumettre à toute une série de conditions, y compris éclaircir son programme politique. Alors ça correspond aussi à une période, les années 70, c'est celle où l'objectif de créer un État islamique est un objectif qui mobilise d'importantes masses en Égypte, mais dans toute la région. C'est au moment où le nationalisme arabe est en recul. Et le frère musulman apparaît comme le parti capable de porter ce projet. 30 ans après, l'élection présidentielle le montre, c'est un projet qui est complètement en crise. C'est un projet qui est complètement en crise parce que l'État islamique n'a été réalisé nulle part et que là où des tentatives ont été faites, elles se sont révélées catastrophiques. C'est aussi, d'une certaine manière, les contradictions nées de la force de la réislamisation dans tout le monde musulman. C'est-à-dire, un des objectifs des frères musulmans, c'était réislamiser. Et c'est vrai qu'on assiste partout à un retour à l'islam tout à fait important. Mais un retour à l'islam qui n'est pas du tout un retour politique. Au contraire, d'ailleurs, l'article le rappelle, et on l'avait montré dans un autre article qui s'appelait « L'islam branché de la bourgeoisie égyptienne », c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un islam de l'accomplissement individuel. C'est-à-dire, soyez bien dans votre peau, vivez bien, réussissez socialement, etc., etc., qui n'a rien à voir avec ce qu'était l'objectif de l'islam politique.
Une espèce de plus-value morale.
Voilà, plus-value morale. Et l'idée de l'État islamique ne mobilise plus personne. Ce qui force les frères musulmans, mais qui sont eux-mêmes divisés en différentes tendances, à éclaircir leur programme. Et aujourd'hui, ce qui est majoritaire, notamment dans les nouvelles générations, qui ont 40-50 ans, c'est un programme de type démocratique d'un côté, c'est-à-dire reconnaissance de la souveraineté du peuple et pas de la souveraineté de la loi divine, ce qui est quand même, du point de vue des islamistes, une révolution. Multipartisme, alternance, etc., etc. Et un programme, et je crois que ça c'est aussi important, un programme libéral. C'est économiquement libéral.
Ce qui est décrit dans cet article, c'est que les principaux promoteurs de l'islamisme politique, ce que vous disiez, pour un État islamique, ils sont en train de virer leur cutie, voilà. Complètement.
Ils sont en train de virer leur cutie. Et ce que l'article souligne aussi, c'est que cette orientation des frères musulmans a amené la rupture entre les frères musulmans et les couches les plus populaires. Voilà. Et donc là, ça crée un problème parce que ces couches aujourd'hui ne sont représentées ni par les forces de gauche, ni par les frères musulmans, ni par personne. Ce qui a été éclatant en Égypte, et ça, enfin quand moi je vais, par exemple le fait que au Caire, 90% des femmes portent le foulard. Moi, je suis né au Caire, j'ai vécu, ça n'existait pas. Et c'est pour beaucoup, contrairement à ce qu'on pense, des femmes de la bourgeoisie, de la petite et de la moyenne bourgeoisie, qui ont réintégré cette dimension islamique, mais qui ont aussi, en même temps, fait disparaître tout contenu social à cette revendication. C'est-à-dire, c'est, encore une fois, les frères musulmans, par exemple, ont été parmi les forces qui ont appuyé le démantèlement de la réforme agraire. Ils sont pour la privatisation. Donc ils perdent ce qui était leur appui populaire. Et ce qui fait qu'ils sont aussi, c'est ce que montre l'article, en situation de faiblesse à l'égard du gouvernement. Et un des signes les plus intéressants, c'est qu'ils ne présentent pas de candidats, ils n'ont pas eu le droit de présenter de candidats, mais contrairement à l'essentiel des forces de l'opposition, ils n'appellent pas au boycott. Au contraire, ils appellent à voter. Et tout le monde a vu ça comme une espèce d'accord entre l'autorité et les frères, parce que en novembre, il va y avoir les élections législatives, et qu'ils ont, à titre d'indépendants, une vingtaine de députés, et qu'ils espèrent en avoir plus.
Dominique, Dominique, regarde so fröhlich in die Welt, so Fuß und ohne Geld. Und sang an jedem Ort, immer wieder Gottes Wort, immer wieder Gottes Wort. Zu der Zeit, als Johann König ohne Land in England war, zog Dominikus zum Streit aus mit der Albigenserschar. Dominique, Dominique, der zog fröhlich in die Welt, zu Fuß und ohne Geld. Und sang an jedem Ort, immer wieder Gottes Wort, immer wieder Gottes Wort. Eines Tages ging barfuß durch den Dornbusch und versicht, und so hat einen Heiden voller Fröhlichkeit bekehrt. Dominique, Dominique, der so fröhlich in die Welt, zu Fuß und ohne Geld. Und sang an jedem Ort, immer wieder Gottes Wort, immer wieder Gottes Wort.
Dans ce numéro du Monde Diplomatique, une autre élection annoncée, c'est celle en Allemagne, où le 18, on parlait tout à l'heure avec Alain Grèche de l'essoufflement de l'islamisme pour des raisons de politique économique. Et ce qu'on voit là, c'est aussi l'essoufflement de la social-démocratie pour des raisons de politique économique. Est-ce que c'est bien ça, Dominique Vidal?
Ce qu'il faut d'abord dire quand même, c'est qu'il y a un peu plus de suspense à Berlin qu'au Caire. Il ne fait aucun doute que Hosni Moubarak sera réélu président de la République. Il est clair que Gerhard Schröder ne sera pas le prochain chancelier.
Ce sera Angela Merkel.
Mais dans quelles conditions? Et c'est un vrai suspense politique important. C'est-à-dire, la CDU-CSU, la démocratie chrétienne, nationale et bavaroise réunie, est en progrès très net. Sur sa gauche, le SPD se voit concurrencé pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne fédérale par un parti qui regroupe à la fois les anciens communistes essentiellement implantés à l'est de l'Allemagne, le Parti du Socialisme Démocratique, le PDS, mais aussi un nouveau parti, Parti pour le Travail et la Justice Sociale, qui est un parti qui regroupe les déçus de la social-démocratie et du syndicalisme lié à la social-démocratie. Alors, selon les résultats exacts, est-ce que la CDU-CSU pourra gouverner avec son allié libéral du FDP, ou bien est-ce que, n'ayant pas assez de députés, elle devra faire, ce qui est courant dans l'histoire de l'Allemagne, une grande coalition avec le SPD. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'on a une défaite annoncée du SPD.
Et de la politique de Schröder.
Et ce qui est intéressant, voilà, dans l'article de Matthias Greffrath, c'est que, au lieu de se consacrer simplement aux deux, trois dernières années, il essaye de montrer sur la longue durée comment la dérive de la social-démocratie allemande, le fait que le choix ait été fait de s'aligner sur des modèles de type Blair, plutôt que sur les propositions qui étaient celles de la gauche social-démocrate, autour d'Oscar Lafontaine en particulier à l'époque, a amené le SPD à reprendre au fond les grandes lignes de la politique de la droite. Et à partir de 1998, quand il arrive au pouvoir, en coalition avec les Verts, on le voit diminuer les impôts des riches, diminuer la taxation des sociétés, faire des cadeaux absolument phénoménaux de dizaines de milliards d'euros aux grandes sociétés, On le voit supprimer des centaines de milliers d'emplois du service public, posant d'ailleurs des problèmes de vie à beaucoup d'administrations et d'autorités locales. Et le résultat de tout ça, c'est le chômage qui, pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne, là aussi, saute au-dessus de la barre de 5 millions, c'est-à-dire ça fait plus de 12% des actifs, sachant que chez eux aussi, on trafique les statistiques avec beaucoup d'allégresse. Hein. On dégraisse tant qu'on peut les listes de chômeurs. Alors, ils sont réélus, on s'en souvient, en 2002, pour mettre en œuvre la politique la plus à droite que l'Allemagne ait vécue depuis des décennies, c'est-à-dire le fameux plan Hartz IV. Le plan Hartz, c'est simple, vous êtes chômeur, vous perdez vos droits au bout d'un an. Le travail qu'on vous propose est obligatoire, et c'est un travail qui est payé 1 euro de l'heure. Et de toute façon, pour toucher vos allocations de chômage, vous devez ne pas être propriétaire d'une maison, ne pas être propriétaire d'une voiture, et avoir liquidé tous vos comptes en banque, y compris ceux qui sont destinés à vos enfants. C'est-à-dire, plus dur, on n'a pas inventé, même du temps de Madame Thatcher. Et le résultat de ces 20 années de dérive, et non pas simplement des 2-3 dernières années, c'est à la fois un effondrement électoral du SPD, qui a perdu 7 Länder, tiens, c'est pas rien, un effondrement de son nombre d'adhérents, dont 175 000 sous Schröder. Il n'en reste plus que 600 000. Et il y a eu un, je dirais pas un effondrement, ce serait trop dire, mais un relâchement de ses liens avec toute une partie du mouvement syndical qui a basculé sur la gauche du SPD et qui a contribué à former ce nouveau parti dont je parlais tout à l'heure. Et Greffrath fait remarquer une chose qui est assez intéressante quand on veut bien l'analyser, parce qu'après tout, on n'est pas très loin de ça en France, c'est que l'électorat du SPD comprend aujourd'hui trois morceaux qui n'ont plus aucune cohérence les uns avec les autres et que lui-même n'arrive plus à tenir ensemble. Ce sont les travailleurs aisés et les fonctionnaires, qui sont un électorat traditionnel du SPD et qu'il a pour une part gardé. Ce sont les chômeurs, les précaires, les victimes de la modernisation qu'il a massivement perdu, dont une part va à droite, une part va à gauche, une part s'abstient. Et ce sont ces libéraux de gauche moderne qui votent au SPD ouvert. Et ceux-là, ils sont restés fidèles à un parti qui, d'une certaine manière, les incarnait très bien. Et cet éclatement de l'électorat du SPD, il fait en fait ce qu'on va constater, je pense, le 18, c'est le fait que le SPD a perdu sa capacité d'intégration sociale. Et là, au fond, on est devant une défaite annoncée, mais annoncé pour des raisons de fond et depuis 20 ans.
Oui, Serge Halimi.
Juste peut-être une réflexion sur les conséquences pour la France. L'un des projets de la droite allemande, si elle arrive au pouvoir, c'est de supprimer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Et d'ores et déjà, on sait en France qu'un membre du Conseil économique, parlant au nom du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, Christian Saint-Étienne, qui est par ailleurs ultra-libéral, a fait savoir qu'il se prévaudrait de cette initiative allemande pour réclamer en France une réforme fiscale du même type qui mette donc davantage en cause la progressivité de l'impôt et qui aille de plus en plus vers le grand rêve des libéraux qui est le taux d'imposition unique quel que soit votre revenu.
J'ajoute quand même que le candidat bis à la présidence de la République en France, qui est je crois Premier ministre en ce moment, a lui-même annoncé qu'il allait diminuer le nombre de tranches de l'impôt sur le revenu de 7 à 4, ce qui va déjà assez nettement dans ce sens.
Et le candidat non bis, M. Sarkozy, a expliqué au conseil de l'UMP, dans un discours d'une démagogie inimaginable, il a dit « il ne peut pas y avoir de tranche de l'impôt supérieure à 50%. On ne peut pas payer plus de 50%. » Vous vous rendez compte? Déjà, ça veut dire que du 1er janvier au 1er juillet, on travaille pour l'État, et après, vous travaillez pour vous et votre famille. Est-ce que ce n'est pas normal? Alors évidemment, les gens qui payent plus de 50% de leurs revenus en impôts, c'est
ça
à peu près.
Pas, déjà. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de tranche de l'impôt sur le revenu supérieur à 50%. Et il faut rappeler que quand il dit 50%, c'est pas 50% sur les revenus, c'est 50% sur la dernière tranche de vos revenus. Et à l'heure actuelle, on est déjà en dessous de 50%.
Et ça touche, ça peut toucher 5% de la population.
Serge Halimi, on pensait qu'aux États-Unis, on avait fait le tour des médias pro-Bush, en particulier avec la campagne présidentielle de l'année dernière, de la couverture de la guerre en Irak. On pensait que Fox News était le parangon du patriotisme américain. Et là, on découvre, dans ce numéro du Monde diplomatique, parce que, en particulier, il n'est pas dans les grandes villes, dans les grandes mégalopoles américaines, mais plutôt dans l'Amérique rurale, un autre groupe médiatique fervent, admirateur et soutien de George Bush, qui est le groupe Sinclair.
Oui, effectivement, à l'étranger, on connaît Fox News, de nombreux articles, reportages ont été consacrés à ce réseau ultra-conservateur qui a été lancé par Rupert Murdoch aux États-Unis, alors que le groupe Sinclair est moins connu, bien qu'en ce moment, il soit plus important aux États-Unis que le groupe de Fox. Donc il y a une enquête d'Eric Kleinenberg qui a rencontré les responsables de cette chaîne et qui montre à quel point elle a joué un rôle tout à fait moteur, à la fois dans l'exaltation guerrière, dans le cas de la guerre d'Irak, et dans la dissimulation des effets humains de cette guerre, dans la mesure où les responsables de la chaîne avouent clairement qu'ils sont aux côtés de Bush. Ils estiment même que 99% des Américains sont à gauche et qu'il leur faut donc rétablir l'équilibre, ce qui est une conception assez cocasse de l'univers de l'information aux États-Unis, quand on sait qu'il y a quelques mois encore, vous aviez une majorité des Américains qui pensaient que Saddam Hussein avait trempé dans les attentats du 11 septembre uniquement parce que radio, télévision et journaux avaient répété ce mensonge.
Et qu'on n'allait pas tarder à trouver les armes de destruction massive.
Mais les responsables du groupe Sinclair pensent qu'on va les trouver, qu'il suffit d'attendre et qu'elles y sont. Donc vous avez ce groupe ultra-conservateur qui développe des chaînes, soi-disant pour remédier à un univers intellectuel et médiatique qui serait trop à gauche, alors qu'il est entre les mains de Murdoch, de Time et de grands groupes industriels qui n'ont vraiment rien de progressiste.
I had just caught the largest fish you'd ever seen when I was abducted by a flying saucer.
World News Special Edition. In space, a space alien abducted me and tried to mate without my permission. Tranquilized and rendered submissive, extracting.
Et ben voilà, c'était l'émission mensuelle avec l'équipe du Monde diplomatique, avec Anne-Cécile Robert, Dominique Vidal, Serge Halimi et Alain Gray. C'était animé par Guy Ventil. A signalé dans ce même numéro du Diplo de septembre un article remarquable de Ronnie Broman, ex-président de Médecins sans frontières, inconscient colonial et ingérence humanitaire sur la dérive de l'humanitaire et sur l'humanitaire, le devoir d'ingérence, le droit d'ingérence qui renoue avec le vieux discours colonial sur la mission civilisatrice. C'est un papier particulièrement passionnant. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas, Jessica Fouché, réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet, assistante Pascaliello et Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. On a eu un petit trou au début de l'émission qui nous a permis de ne pas, qui nous a empêché d'entendre un message de la Confédération paysanne. C'est important parce que ça concerne quelque chose qui se passe demain à Rodez, donc on l'écoute.
Ici, c'est Chantal de la Confédération paysanne. C'est un message urgent et très important. Demain, le 7 septembre à Rodez, il y aura un procès où la Confédération paysanne est impliquée parce qu'elle a voulu user de son droit d'expression pour dénoncer la baisse du prix du lait, parce qu'elle a voulu dénoncer les aléas de la gestion administrative sur les pesticides en disant d'un côté que des semences étaient toxiques et que d'un autre côté, il fallait continuer à les écouler pour satisfaire les besoins de l'agro-industrie. La Confédération paysanne, pour avoir simplement dit à la société Valmont Lactalis de retirer sa plainte pour une cause juste, se retrouve par cette même industrie directement citée en comparution, à la fois à travers la structure, c'est-à-dire la Confédération paysanne, et à la fois à travers Jean-Émile Sanchez, son ex-porte-parole. Demain, il y a besoin d'avoir du monde, le 7 septembre à Rodez, à partir de 8h devant le tribunal, parce que le droit d'expression est en train d'être bafoué partout, et nous comptons tous sur vous. Merci.